Kasha throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR. Guillaume au micro, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver pour ce 44e épisode. Un épisode qui arrive un petit peu plus tardivement que les précédents, mais c'est pour une bonne raison, puisque c'était que je ne pouvais imaginer décemment enregistrer sans mon acolyte de toujours. Vous aurez bien évidemment reconnu Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume. Bah écoute, ouais, c'est ça. J'ai eu quelques empêchements de mon côté qui ont repoussé cet enregistrement en milieu de semaine. Donc voilà, mais on va débriefer un peu. On va débriefer un peu l'actu du dernier week-end et légèrement plus du coup.
Ouais, et puis la communauté avait plébiscité de toute façon ta présence, hein, donc il était impensable d'enregistrer sans toi. Il était aussi impensable de ne pas revenir sur ce match qui s'est soldé par une défaite à Atlanta, une défaite 37-34 en prolongation, mais un match avec une fin de rencontre complètement folle. Alors, une première mi-temps, comme d'habitude, assez laborieuse, hein, pour ne pas dire autre chose. Un score de 14-10 pour Atlanta à la pause, hein, grâce à une superbe action du defensive end des Falcons qui réussit un pick-six juste avant la pause. À 12 minutes de la fin, on est à 21 partout. Et là, le match s'emballe. Et dans les 10 dernières minutes, on va avoir beaucoup de points, puisque les Falcons vont d'abord passer devant 24-21. Puis c'est les Panthers qui, avec un touchdown, vont prendre la tête 28-24 à un petit peu moins de 3 minutes de la fin. Puis Atlanta va mener 31-28, puis 34-28, alors qu'il reste quelques secondes. Et là, une passe Ave Maria de PJ Walker, qui est réceptionnée par DJ Moore, qui marque le touchdown, 34 partout avec l'extra point à venir. On se dit que c'est quasiment dans la poche. Mais une pénalité dont on va être amené à reparler, je pense, au cours de l'émission, est sifflée contre DJ Moore. L'extra point est donc reculé de 15 yards et Di Pignero le manque. On part donc en prolongation. En prolongation, c'est les Falcons qui démarrent en attaque, mais CJ Anderson intercepte une passe en profondeur de Mariota et remonte le ballon jusqu'en red zone adverse. Les Panthers se placent bien pour le field goal a priori de la victoire, mais Di Pignero le manque à nouveau. Et derrière, Atlanta va avoir une dernière chance et va remonter le terrain pour placer leur kicker coup dans les bonnes conditions, qui lui va réussir son field goal. Et Atlanta va donc s'imposer 37-34. Thomas, j'ai envie de dire, on a vécu une fin de match complètement folle. C'est peut-être la plus grosse fin de match qu'on ait vue ces dernières années pour les Panthers, même si elle se solde par une défaite.
Ouais, non, bah c'est ça, c'est une fin de match assez folle dans le sens où c'est les Cardiac Cats, ça a été un des montagnes russes, ouais, c'est ça, c'est le terme, voilà, avec cette pénalité sur Moore qui fait que bah du coup on se retrouve à tenter l'extra point d'un peu plus loin, ça passe pas, donc du coup paf, bien sûr on part en prolongation dans la suite. On avance suffisamment pour permettre de tenter le field goal. Le field goal passe pas. C'est assez difficile. Bah en plus surtout qu'il y a une interception qui s'était glissée en plus. C'était vraiment des montagnes russes. Faut pas être cardiaque avec les Panthers en ce moment et même depuis un bon moment, on va pas se cacher. C'est assez difficile comme match quoi, comme fin de match surtout.
Ouais, c'est un peu l'ADN hein, des Panthers, les fins de match à suspense quand même. Mais c'est surtout même que ces rencontres face à Atlanta sont toujours très indécises. Et souvent même à l'inverse de ce à quoi on s'attend. Hein. Là, on s'attendait à un match avec plutôt un petit score, beaucoup de jeux de course. Il y en a eu, mais on finit quand même à plus de 70 points sur le match. C'était pas forcément écrit au début de la rencontre, ce scénario.
Ouais non, clairement pas, c'est comme tu dis, ouais, ça, on s'attendait à un match où ça scorait pas beaucoup et au final ça s'est un peu envolé. Alors pourtant Dieu sait que ça avait été laborieux en début de match. On a eu le droit quand même à un super Dante Foreman. Je pense qu'on va en parler juste après, mais il nous fait un super match et voilà, on a de la variété dans le jeu, notamment à la course, donc c'est plutôt pas mal quoi. Enfin plutôt pas mal. Bon, il y a la défaite au bout, attention, mais voilà.
Oui, mais dans ta Foreman, hein, si j'enchaîne directement sur l'attaque, c'est peut-être, on peut le dire, le MVP de la rencontre, hein, pour les Panthers. Il a vraiment porté l'attaque. Il termine encore à plus de 100, enfin près de 120 yards sur la rencontre. 3 touchdowns, plus une conversion à 2 points d'ailleurs. Et il a vraiment rythmé l'attaque, hein, avec son jeu au sol.
Ouais, non, c'est ça, ça a été un métronome, ça a été il nous a permis d'avancer, puis bah en fait on rebondit un peu sur ce qu'on avait dit la semaine dernière et les semaines d'avant, enfin les semaines d'avant non, j'abuse un peu, mais on essaye de varier un tout petit peu les courses, et on se rend compte que ça fonctionne, et enfin ça fonctionne par moments plutôt bien. Là en l'occurrence ça a plutôt bien marché avec 3 touchdowns et une conversion, donc ouais non, faut continuer. Puis c'est un peu dommage entre guillemets d'avoir Foreman dans le roster depuis déjà quelques temps cette saison et de pas l'avoir beaucoup plus utilisé que ça. Mais enfin voilà, donc là on a une bonne utilisation et il nous fait clairement pas oublier CMC qui fait aussi un match assez de dingo là pour les 49ers. Il a tout fait ce week-end, mais voilà, c'est au moins on n'est pas perdu entre guillemets à la course.
Non, il fait plus qu'assurer l'intérim et la suite, hein. Je pense que ce sera une des priorités de re-signature à l'intersaison. Il y a un autre joueur qui est dans le roster depuis un petit moment et qu'on commence à voir un petit peu plus, c'est bien évidemment PJ Walker, qui, à l'image des Panthers, a connu un début de rencontre clairement compliqué, hein. Il avait des stats à la mi-temps qui n'étaient vraiment pas glorieuses. Ça devait être de l'ordre de 6 sur 15 pour une soixantaine de yards et une interception de mémoire. Il termine avec une deuxième mi-temps beaucoup plus propre, on va dire, beaucoup plus généreuse, avec plus de 300 yards à la passe, dont beaucoup de yards dans le dernier quart-temps, et notamment cette passe Ave Maria pour DJ Moore en toute fin de rencontre. Un DJ Moore retrouvé depuis 2 semaines, hein, avec cette fois 6 réceptions pour plus de 150 yards et un touchdown. On a peut-être trouvé, ça y est, le quarterback qui réussit à relancer DJ Moore sur les standards qu'on s'attendait à avoir de sa part en début de saison.
Ouais, non, clairement, bah c'est ça, c'est bah, on est de retour sur un match à plus de 100 yards. Ce pourquoi en fait on espère un peu qu'il est là. Donc ouais, ça fait plaisir en fait de revoir un peu un DJ Moore plus productif dans les stats. Parce que ouais, comme tu dis, il avait eu un début de match assez compliqué, mais il s'est bien rattrapé par la suite. Et puis voilà, il nous amène ce touchdown en fin de match là sur cette superbe passe de PJ Walker. Non, bah voilà quoi. C'est d'ailleurs pour l'anecdote, la passe de PJ Walker à DJ Moore, elle a fait 67,6 yards dans les airs. C'est la plus longue passe jamais enregistrée par les Next Gen Stats de ESPN.
Alors je sais pas toi, on disait la semaine dernière qu'il fallait attendre avant de s'enflammer sur PJ Walker. Là, après un début de match quand même très compliqué, je le disais, il a plutôt bien confirmé cette semaine. On attend encore une semaine pour lui faire des excuses officielles ou on commence à dire que c'est bon, il peut garder le poste jusqu'à la fin de saison?
On va attendre, parce que le début de match a quand même été relativement difficile. Voilà, il y a eu vraiment un gros temps de mise en route. Donc ouais, non, on va continuer d'attendre pour éviter d'être déçu. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant, parce que voilà, c'est toujours un peu particulier de se prononcer aussi rapidement, surtout sur des voilà, ça a été très mitigé dans le sens voilà, début de match difficile, mais fin de match un peu explosive avec ce boulet de canon pour enfin ce ouais, cet avion pour DJ Moore, donc voilà quoi.
Ouais, je vais attendre aussi avant de vraiment m'enflammer, mais clairement, on sent, ça se voit dans le jeu. Alors, je ne sais pas si c'est le play calling aussi qui est un petit peu changé, mais on sent une dynamique offensive qui est vachement plus présente que ce qu'on a pu avoir jusque-là, que ce soit avec Baker Mayfield en début d'année ou même avec Sam Darnold l'an dernier. Voilà, on sent une attaque qui avance. La raison à tout ça, c'est peut-être aussi la ligne offensive qui, à nouveau, fait un très très gros match. Je crois qu'il y a un sac vilain qui est concédé en toute fin de match, justement sur le dernier drive. Mais au-delà de ça, voilà, Ikem Ekwonu qui continue sa belle saison rookie. Bradley Bozeman qui, pareil, pour sa deuxième titularisation, a bien ancré le centre. C'est bien de voir voilà, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais l'effort, le gros effort de l'intersaison, c'était sur cette ligne. Et on voit que les choix ont été plutôt judicieux et que ça paye, quoi.
Ouais, très clairement, toutes les semaines on leur fait un peu des éloges, mais c'est vraiment une bonne réussite cette saison, cette ligne offensive. Il y a vraiment des gros gros motifs de satisfaction, et puis ouais, ça tient super bien, quoi.
Et il y a un motif de satisfaction d'ailleurs, en tout cas une des raisons, je crois qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais je pense qu'il est plus que temps de le faire, c'est quand même le coach de ligne offensive James Campen, qui a été recruté à l'intersaison, et qui pour moi est l'un des grands artisans aussi de cette cohésion sur la ligne, et qui fait vraiment un super taf. Pareil, je parlais de Dante Foreman dans les priorités à conserver à l'intersaison. James Campen, il ne sera pas loin derrière pour moi, hein, parce que
Non, très clairement.
c'est vraiment, quand on voit le progrès qu'il y a d'une saison à l'autre, c'est vraiment un des assistants coach que je veux garder aux Panthers l'année prochaine. Franchement, très, très bien. Pour le reste, offensivement, il y avait du mieux en troisième tentative. Ça finit à 5 sur 13, si je ne dis pas de bêtises. Et aussi, quand même, Terrace Marshall Jr. qui sort un nouveau beau match depuis la semaine dernière, ça en fait deux, oui. Voilà, il sort un petit peu du bois, ça fait plutôt plaisir aussi. Du côté de la défense, tu vas me donner ton avis. Moi, j'ai été un petit peu plus mitigé de la prestation, parce qu'il y a quand même déjà 37 points concédés, même s'il y en a, il y en a 7 sur une interception. Alors, on peut préciser que Derrick Brown a fait un nouveau gros match. À nouveau, je pense que c'est en train de devenir quelque chose de régulier, et c'est tant mieux. Grosse présence encore pour lui sur la ligne défensive, probablement le meilleur défenseur encore dimanche.
Ouais, non, clairement, il nous fait un super match, ouais, avec une jolie petite ligne de stats, 12 plaquages, dont 5 solos, un demi-sac, un tackle pour perte et un QB hit. Non, franchement, il est sur des très bons standards cette saison. C'est un des motifs de satisfaction, et on comprend, entre guillemets, mieux, enfin mieux, on comprend très bien pourquoi, en fait, il faisait partie, en fait, des joueurs, entre guillemets, un peu indéboulonnables, sur les propositions de trade dans cette équipe, quoi.
Ouais, il est jeune, il est prometteur. Là, il arrive en troisième année et on sent vraiment un gros gap. Dans la liste des joueurs, on va dire intransférables, il y a bien évidemment Brian Burns. Je l'ai trouvé un peu plus en dedans cette semaine. Je continue à, surtout si vraiment il doit devenir le defensive end numéro un des Panthers pour les saisons à venir. Je continue à en attendre un petit peu plus, mais c'est vrai qu'entre lui et Yetur Grosmatos, voilà, il y avait quand même plutôt un petit peu de production à eux deux, donc c'était plutôt bien de les voir performer, même si je suis peut-être un petit peu exigeant avec Brian Burns.
Non, ouais, après, je pense que voilà, on peut se permettre d'être exigeant avec Brian Burns, dans la mesure où on sait que il a des super capacités. C'est un des piliers de cette ligne défensive. On sait notamment que les Rams avaient proposé, je crois, de l'échanger en partie contre deux premiers tours de draft. Ça s'est pas fait, et non, voilà, je pense qu'il a encore une marge de progression, et il faut qu'il s'en donne les moyens, mais très clairement, il en a les capacités, quoi.
Ouais, moi je sais que c'est. Enfin, j'ai déjà dit, hein, c'est un joueur dont j'attends beaucoup à l'avenir. Donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir produire pendant de nombreuses années sous le maillot des Panthers. Au niveau du backfield défensif, alors il y avait le retour de Jesse Horn, ça c'était plutôt bien. On a commencé le match avec une interception sur quasiment la deuxième ou troisième action par l'intermédiaire de Dante Jackson. On a quasiment fini le match sur une interception de CJ Anderson. Entre les deux, le backfield. Alors il y a eu pas mal de blessés, puisque Dante Jackson, lui, est sorti en cours de match, hein, toujours pour cette blessure à la cheville qui semble pas vraiment vouloir partir. Il est incertain pour le match de dimanche. Lui dit qu'il va jouer, on verra. Mais c'est, je sais pas toi, mais je m'attendais à plus moi en termes de performance de ce backfield défensif en début d'année. Après, il y a quand même des circonstances atténuantes dans la mesure où, on le rappelle, Jeremy Chinn est toujours absent. Ben voilà, Jesse Horn revenait de blessure. Donc on a pas mal vu Keith Taylor, Miles Hartsfield. Mais voilà, quel est ton avis toi sur ce backfield défensif des Panthers?
Bah écoute, ça a été un peu sur courant alternatif. On a vu du très bon avec ouais, des interceptions. Voilà, on a eu des jeux, enfin une jolie petite interception d'ailleurs sympathique de Dante Jackson en début de match à une main. Voilà, c'était du bon. Après, on a eu du moins bon avec ça s'est un peu troué par moment. Mais voilà, après, ouais, comme tu dis, circonstances, pardon, atténuantes dans la mesure où voilà, on est quand même on a quelques pépins de blessures sur ce secteur depuis le début de saison, avec notamment avec Jackson là, qui s'est blessé sur la cheville. On a eu un JC Horn qui a eu des petits pépins au niveau de la hanche. On a Jeremy Chinn qui est toujours sur liste des blessés. Donc ouais, non. Mais globalement, il y a du talent, voilà. On sait que ça peut très bien fonctionner. Voilà, ils auraient un match sans, mais bon. Un peu comme PJ Walker, voilà, je vais pas rentrer dans le piège de tomber tout de suite dans la critique ou tout de suite dans le comment dire, dans les louanges.
Ouais, on va. C'est sûr que voilà, c'est des choses à qu'on remarque, mais on garde la situation en tête aussi. Mais par exemple, je repense au touchdown de Damien Bird en fin de match, là, le touchdown qui fait repasser les Falcons devant à 2 minutes de la fin. Bah, il s'est un petit peu promené dans le backfield, quoi, au milieu des linebackers qui eux aussi ont, j'ai trouvé, ont pas fait un match extraordinaire, à l'exception d'une ou deux actions par moment. Et après, bah, c'est vrai que tout le monde était un petit peu attentiste, que ce soit CJ Anderson, que ce soit Xavier Woods, on n'a pas vu vraiment. Enfin, c'était un peu dommage. C'est ce que tu disais, je trouvais assez juste le résumé. Voilà, une action d'éclat de temps en temps, et le reste du temps, c'était un peu plus moyen.
Ouais.
Je repense aussi à cette action où Kyle Pitts est absolument tout seul sur le haut du terrain là-bas, oublié de tout le monde, et il gagne 15 yards comme ça sur la passe. Voilà, des points à corriger qu'on surveillera la semaine prochaine, et que voilà, on espère que ça ne se répétera pas. Dans les choses qui ne se répéteront pas, on pense bien évidemment au niveau des équipes spéciales à ces deux coups de pied manqués par Ilie Piniro. Alors j'ai assez dit depuis le début de la saison qu'il était très bon pour reconnaître que bon bah là sur ce coup-là ça aurait pu être mieux, on va pas se mentir. Alors il a été conservé, hein, il n'a pas été remplacé, il est encore là pour le match de dimanche et Steve Wilks a indiqué qu'il avait encore la confiance. Donc voilà, je pense que c'était peut-être juste un mauvais match. Qu'est-ce que toi t'as pensé de cette prestation? Est-ce que tu lui trouves des circonstances atténuantes, notamment avec cette pénalité, ce premier extra point qui est reculé, et du coup, est-ce que ça joue sur le mental pour le deuxième qui le loupe? Qu'est-ce que tu conclus de tout ça, toi?
Ouais, je pense que ouais, le premier, en fait, le premier raté lui met un coup. Après, ouais, voilà, sur le début de saison, bah voilà, on n'a pas été critiqué avec lui dans le sens où il a été assez bon, il a bien assuré. Il a assuré alors que bon, on va s'avouer, on n'attendait pas toujours à ce qu'il performe. Bon, là, il passe au travers, il y a cet extra point qui est reculé à cause de la pénalité. Mais globalement. Non, ça, enfin, moi j'ai envie de dire que ça m'étonne pas plus que ça qu'il soit conservé dans le roster. Certes, on aurait pu gagner le match, on a eu deux occasions sur les coups de pied, c'est pas passé, mais globalement sur le reste de la saison, il avait quand même été là pour assurer. Donc non, on va espérer que ce soit qu'une erreur de passage entre guillemets. Après voilà, c'est. Voilà, globalement il reste, je veux dire, ça me choque pas plus que ça, quoi.
On verra si ça se reproduit, mais je pense que j'ai de ce qu'il a montré jusque-là, moi j'ai confiance que voilà, c'était juste un mauvais match. Effectivement, ça coûte cher, mais c'est le problème des kickers hein, qui
Bah c'est
ont
ça, c'est de
toujours
la
beaucoup de
pression en fin de match,
responsabilités.
ouais.
Voilà, c'est ça. Donc voilà.
Ça
Un mot
arrive.
aussi sur les en équipe spéciale sur les punt returns moi de Shai Smith que j'ai plutôt beaucoup aimé. Il n'a pas toujours été très rassurant, notamment la semaine dernière où il y avait quelques décisions que je trouvais un peu limite. Là, c'était quand même plus incisif et plus efficace, j'ai trouvé. Donc, c'est quelque chose que je voulais souligner. Après, voilà, hein, comme d'hab, Johnny Ecker, pas grand-chose d'autre à rajouter là-dessus. Du coup, je te propose qu'on dise un mot du coaching aussi, à moins que tu avais autre chose. Mais alors comme je le disais tout à l'heure en parlant de PJ Walker, je trouve quand même qu'on sent une dynamique, sans vouloir enfoncer le précédent head coach. On sent quand même que les joueurs ont plus envie de je trouve, enfin se donnent plus en tout cas, et sont plus motivés par le discours de Steve Wilks, sont plus réceptifs à son discours que celui qui pouvait être celui de Matt Rhule avant, j'ai l'impression, quoi.
Ouais, bah clairement c'est ça, on retombe un peu sur ce qu'on disait les semaines d'avant, dans la mesure où voilà, on a Steve Wilks, originaire de Caroline, il connaît bien l'équipe, il connaît un peu comment ça fonctionne, il connaît la mentalité, non ça voilà, on a l'impression quoi, il y a le vestiaire avec lui pour l'instant, et que même si c'est sur de l'intérim, voilà, on sent qu'il y a de l'envie, on sent qu'il y a de l'envie quand même, on n'est pas dans une optique de se laisser rouler dessus, et c'est quand même quelque chose qui fait plaisir, parce que là on n'est pas dans une saison où on sait que ça va être particulièrement kiffant, mais voilà, non, ils réussissent quand même à faire 2-3 trucs, et c'est en partie grâce à Steve Wills.
Et quel est ton avis, toi, sur le play calling offensif de Ben McAdoo jusque-là? Parce que bon, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de pas mal critiquer depuis le début. Là maintenant, ça fait 3 semaines que Matt Rhule n'est plus là, qu'il y a un nouveau quarterback en la personne de PJ Walker. Alors est-ce que tu trouves du mieux ou est-ce que c'est toujours K1, K1?
Bah, il y a du mieux, et en même temps c'est pas non plus révolutionnaire, dans la mesure où ouais, c'est ce que je notifiais notamment sur les courses de Foreman, voilà, ouais. On sait qu'on a des joueurs de qualité offensivement, et bah faut savoir les utiliser au bon moment, faut varier un peu les jeux, et on a commencé un peu à voir ça notamment avec les courses de Foreman, voilà, où on évite maintenant de partir toujours dans l'axe, mais pour autant par moment bah c'est un peu toujours coup-ci coup-ça quoi. Mais il y a quand même du mieux, ouais, un peu.
Ouais, un peu ce côté entre les premières mi-temps qui sont vraiment compliquées à regarder et puis voilà cette fin de match qui était quand même beaucoup plus emballée, on va dire. Tu parlais de Foreman, moi ça me fait rebondir quand même. Je constate que depuis le départ de Matt Rhule, on voit Bradley Bozeman, on voit Dante Foreman, on voit Terrace Marshall Jr., tous ces joueurs-là qui performent. Brady Christensen, on l'a répété la saison dernière, alors là maintenant il est titulaire en tant que garde gauche, mais on a répété à foison l'an dernier qu'il fallait qu'on le voie plus.
Et surtout que l'an dernier, en plus, tu te dis, t'as rien à perdre, quoi. Enfin, on n'était pas
Exactement.
spécialement bon, et tu peux te permettre d'essayer des trucs sur la ligne offensive, parce qu'on savait que l'an dernier, c'était pas fou, quoi.
Du coup, voilà, c'est pas, j'ai pas envie de lui remettre un petit tacle par derrière gratuit, mais. Voilà, tous ces joueurs-là, on les avait déjà au début de la saison. Et avec Matt Rhule, on les voyait pas, quoi. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y avait vraiment une philosophie et des choix de la part de l'ancien entraîneur qui passaient pas et qui étaient assez discutables. En tout cas, ben, ça fait plaisir de voir qu'il y avait effectivement de la qualité dans ce roster et que ben, voilà, on arrive à montrer des choses et que si même les victoires sont pas là pour le moment. Au moins, bah, les matchs sont agréables à regarder, chose que On n'aurait pas vraiment parié dessus il y a quelques semaines de ça. Qu'est-ce que tu as comme top et comme flop pour cette rencontre avant qu'on passe à la fin de l'émission?
Bah écoute, comme top, j'ai choisi d'en prendre deux cette fois-ci, un côté attaque, un côté défense, comme ça, pas de jaloux. Côté attaque, j'ai choisi de mettre DJ Moore. Voilà, on a un peu retrouvé, on l'a un peu retrouvé. Il nous fait une super réception sur le Hail Mary. Bon, il y a cette pénalité dont je vais parler juste après, mais globalement, voilà. Super match de sa part. On retrouve un peu le leader et le joueur qu'on attend de voir. Et défensivement, j'ai choisi de partir sur Derrick Brown. Voilà, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure au moment de débriefer la performance défensive. Voilà, il fait ses marques. Ça me rappelle un peu les, comment dire, des cadors de la ligne intérieure qu'on a pu avoir il y a quelques saisons avec Star Lotulelei et Kaywen Short. Donc non, ouais, c'est plutôt pas mal, quoi.
Ouais, je te rejoins et je vais rajouter mon top tout de suite tant que j'y suis. Et c'est le réveil de Terrace Marshall depuis deux matchs. Là, il termine. On n'a pas donné ses stats tout à l'heure, mais 4 réceptions, 87 yards. Et puis des belles réceptions hein, à chaque fois. C'est vrai qu'il y a pas mal de gros jeux. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de le voir parce que c'est quelqu'un en qui je croyais pas mal au moment de sa draft. Et voilà, donc je suis content de le retrouver. Je te rends le micro pour évoquer ton flop.
Alors sur le flop, voilà, on en a parlé vite fait pendant l'émission plusieurs reprises, mais c'est la règle du casque, quoi. Enfin, ouais, on perd quelques yards sur la tentative d'extra point et elle passe pas. Ouais, on voit la règle, on la connaît, enfin on la connaît, on a pu la voir à plusieurs reprises sur les derniers jours et depuis le match. Voilà, faut pas retirer le casque dans le terrain. Le problème, c'est que là, c'est un peu litigieux dans la mesure où c'est sur l'extérieur. Donc voilà, on retombe un peu sur les problèmes récurrents depuis. On avait l'impression qu'il y avait un peu de mieux à ce niveau-là sur les célébrations de joueurs, mais globalement, voilà, la règle est assez dommage, enfin surtout sur ce match-là, où bah, en fait ça arrive vraiment sur les limites du terrain. Donc voilà, si ça arrive pas, ça aurait été bien, mais voilà. Bon, après je pense que ça va servir de leçon et je pense que DJ Moore va garder le casque vissé sur la tête sur les prochains touchdowns.
Ouais, alors moi, si je peux rebondir juste deux secondes là-dessus, il y a plusieurs arbitres, analystes, machin, qui ont dit que bah, il n'était pas vraiment sur le terrain, donc il n'aurait pas dû être pénalisé. Bon, ça c'est une chose, ok, soit. Je me mets quand même à la place de DJ Moore qui, sur le drive juste avant, drop la conversion en 4e et 19. Déjà, enfin, la passe de PJ Walker en 4e et 19, elle est parfaite. Elle vient dans les bras de DJ Moore, il la drop. Il s'en veut. Et derrière, il réussit une réception Ave Maria à la toute fin du match qui fait égaliser son équipe. Donc il a le droit quand même, dans un sport où il y a quand même pas mal d'émotions, d'engagement. Bah, moi, je comprends que le mec soit content, quoi. Surtout après ce qui vient d'arriver juste avant. Donc voilà, donc il enlève son casque. Effectivement, il n'aurait pas dû. Je pense que ce serait le premier à le regretter. Après, voilà, derrière, c'est un field goal de 48 yards dans un dôme sans vent.
Ouais,
Ça
ça
peut
aurait
se
dû.
réussir aussi, quoi. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Est-ce que s'il avait été à 33 yards, enfin, à distance normale d'extra point, il y a des chances qu'il le passe? On a vu en prolongation que c'était pas automatique quand même. Donc, voilà. Mais clairement, moi personnellement, j'en veux pas trop à DJ Moore d'avoir exprimé ses émotions. Peut-être il aurait pas dû le faire de cette façon-là, d'accord, il aurait dû attendre la fin, ok. Mais sur le coup, voilà, on peut comprendre. Enfin, moi en tout cas, je comprends que le mec ait de l'émotion. Tout ça pour dire que mon flop, c'est surtout qu'avec cette défaite, les Panthers ont loupé l'occasion de prendre la tête de la division, certes, mais surtout qu'on aurait eu les quatre équipes avec un bilan de 3-5. C'était quand même assez cocasse et bah, moi ça m'aurait fait sourire d'imaginer voilà les Panthers premiers de la div avec quatre équipes à 3-5 mais bon tant pis ce sera peut-être pour une prochaine semaine on verra hein. La division est encore loin d'être jouée donc on verra hein. Tous les espoirs ne sont pas complètement perdus. On avait prévu éventuellement une section sur les trades au moment de la date deadline de mardi. Les Panthers en ont pas fait. Donc du coup, comme ça va aller plus vite. Et je te propose qu'on se tourne directement vers le match de dimanche, ouais, avec un déplacement dans l'Ohio du côté de Cincinnati. Cincinnati qui est à un bilan de 4-4, si je ne dis pas de bêtises, après leur défaite contre Cleveland lundi, une défaite assez sévère sur le score de 32-13. Joe Burrow privé de Ja'Marr Chase sur cette rencontre, et ce sera aussi le cas face aux Panthers, hein, puisque l'ancien receveur de LSU devrait être absent pendant quelques semaines. Comme d'hab, est-ce que tu as un avis sur cette rencontre? Est-ce que tu as un pressentiment? Est-ce que Cincinnati va se réveiller? Ou alors, avec l'absence de Chase et cette ligne offensive qui a l'air pas forcément au top du niveau de la NFL, tu penses que le pass rush des Panthers peut faire quelque chose?
Bah écoute, je pense que les Bengals seront à cœur en fait d'essayer de rebondir après ce match, ouais, contre cette défaite contre Cleveland. Défaite assez rude pour eux, donc ouais, je pense qu'ils ont très clairement l'envie d'essayer de rebondir. Après voilà, comme tu dis, globalement il y a aussi une possibilité pour nous avec si on a un bon pass rush, donc globalement ouais, je me prononce pas trop, en plus je trouve que même au niveau de la NFL on a une on va dire, on a une dynamique assez homogène cette saison, je trouve. Assez homogène et on a l'impression que tout peut arriver. Mais globalement, non, je sais pas trop. Peut-être une défaite, mais on ne sait pas.
On va voir, ce sera dimanche à 19h. Rapidement après, il y aura un deuxième match face aux Falcons, hein, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc la bonne nouvelle pour nous, c'est que le vendredi étant le 11 novembre, eh ben, vous pourrez dormir un petit peu plus tard le lendemain matin et donc profiter pour regarder éventuellement ce match à 2h du matin ou quelque chose comme ça. Voilà, ce sera l'occasion. Je pense qu'on fera une émission débrief des deux rencontres en même temps. On fera peut-être pas un podcast entre les deux. Mais voilà, ce sera les deux rencontres qui attendent les Panthers dans la semaine qui vient. Et puis après, il y aura 10 jours de repos avant de se déplacer du côté de Baltimore, si je ne dis pas de bêtises. Et après, je crois que c'est la bye week. Merci Thomas.
Merci à toi.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Et comme d'habitude, on vous redonne rendez-vous très prochainement pour cette rencontre et puis dans une prochaine émission. Ciao.
Ciao.